Le faiseur de monde présente le nouveau cycle de Yom, livre premier, Angebashan, épisode 9. Sale temps pour le clan Alliance. Oh, évidemment, je ne parle pas de la mort de Sinarbouz. Des petites frappes, ils ont juste besoin de se baisser pour en ramasser autant qu'ils veulent. D'accord, il était peut-être un petit peu plus doué que les autres, mais il y en a 10 pour en remplacer un qui tombe. Non, le vrai souci, c'est la mort d'Andresh. Ils ont payé très cher pour avoir une information, et le seul qui pouvait peut-être la faire fructifier vient de disparaître dans les eaux sombres d'Angebashan. Sans parler de la réputation à propos de la descente des Citéos. Certes, ils avaient réussi à enlever la fiancée d'Andresh, discrètement, efficacement, tout ça pour se la faire reprendre par les Citéos quelque temps après, et la négociation avec le clan Citéos n'a pas donné grand-chose. Or évidemment, comme c'était prévisible, les deux clans se sont entendus. L'intérêt bien compris de Citéos allant plus vers un clan établi d'Angebashan que pour un Kidam qu'ils avaient payé cher pour faire quelque chose qu'ils avaient fait finalement assez facilement. Évidemment, ils ne savent pas qui les a payés. Oui, un Chinois. Au nom du clan Bedersan, il n'en a rien dit. Et on ne va pas aller leur demander, car si c'est la vérité, petit 1, on a enlevé une fille qui visiblement, selon les dires d'Andresh, plaisait à un lieutenant du Niwashi, mais on vient surtout potentiellement de se mettre sur la liste des personnes soupçonnées d'avoir soit éliminé son fiancé, soit de ne pas l'avoir protégé suffisamment. Ça n'était guère le moment pour Alliance de se mettre encore plus dans les problèmes vis-à-vis du clan Bedersan. Comme on dit ici, un mauvais saké vaut mieux qu'une bonne mousson. On clôt le dossier rapidement. Après tout, Citéos n'a pas fait de dégâts. Et le clan Alliance n'a pas intérêt à faire savoir trop fort pourquoi il a traîné dans cette affaire, de peur que le clan Enshli ne lui en veuille. Oh, il se doute bien que le fameux Maïdenar, quelle que soit l'organisation qu'il paye, a remplacé Andresh. Et donc que l'enquête continue. Mais ils ne savent pas jusqu'à quel point ceux qui sont derrière le Maïdenar ne pourraient pas aussi leur en vouloir d'avoir supprimé Andresh, peut-être alors qu'il allait découvrir quelque chose. Qu'est-ce qu'il avait découvert? Est-ce qu'il l'avait transmis à son contact? Finalement, le clan Alliance préfère tourner la page et mettre toute cette affaire aux pertes et profits. Citéos fermera les yeux et tout continuera comme avant. Pour le Maïdenar, c'est une autre histoire. Akita rame, ne récupère aucune information. Les deux autres sont maintenant muets comme des tombes, et la fiancée a disparu. En creusant un peu, on apprend qu'elle a disparu avant la mort d'Andresh. Bizarre. Plus surprenant encore, le calme du père, Don Heng, que l'on a commencé à surveiller discrètement mais qui ne montre aucun signe d'agitation. Rien n'a changé dans sa vie. C'est bizarre, mais ce n'est pas la priorité du Maïdenar qui met la pression à Akita sur le clan Enshli. Il faut trouver une autre source, utiliser la même méthode qu'Andresh, qui finalement a été plutôt positive. Chiffon jaune, les deux abrutis, qui ne disent rien, mais dont on se demande s'ils n'avaient pas lâché quand même quelques informations. On aurait peut-être dû récupérer Andresh avant de le faire assassiner. Et puis, sa fiancée qui disparaît, c'est clair, il était devenu dangereux, quelqu'un le faisait chanter, et la fiancée n'est pas réapparue. Et ce type qui s'interpose pour protéger Andresh. Certes, il avait pris de la valeur. On l'a tué alors qu'il savait des choses. On a agi trop vite. Il faudrait savoir qui était derrière. Seulement, le Kidam est mort en même temps qu'Andresh. Et qui a pu enlever la fiancée, ça, personne ne le sait. Le porteur d'enveloppe jaune n'a pas suffisamment parlé. Lui aussi, il est mort trop vite avant de dire à quel clan il avait vendu l'information. Cet imbécile. Chercher à quitter Angebashan parce qu'il venait de toucher le pactole du clan à qui il avait vendu les informations. Est-ce qu'il pensait réellement qu'il n'était pas lui-même surveillé, tout comme on avait fait surveiller le Menglintai? Seulement voilà, on avait voulu faire un exemple, on avait voulu le tuer trop vite, comme pour Andresh. Le Maïdenar n'était pas content de ce qui se passait à Angebashan. C'était brouillon, c'était brutal. Il aurait fallu de la finesse, on aurait pu récupérer des informations. Grosse pression sur les épaules d'Akita. Lui, il se doute un petit peu de tout ça. Il se doute de ce qu'il attend si jamais il fait le moindre faux pas. Évidemment, vu ce qu'il vient de se passer, ce n'est pas lui qui irait s'acoquiner avec n'importe qui. Non, c'est juste qu'il lui faut des résultats. Et pour l'instant, il n'en a pas. Pourtant, il se rend compte que le coût est énorme. Qu'on ait embauché quelqu'un, comme Matt Donleger, pour supprimer Andresch, peut-être le supprimer alors qu'il avait des informations, et préférer ne pas récupérer ces informations plutôt qu'elles aillent à quelqu'un d'autre, c'était un gros coup. Si jamais il réussissait, il pourrait quitter Angebashan. Peut-être même prendre un vrai poste pour le Maïdenar, avec un vrai salaire. Il en rêvait. Mais on ne quitte pas Angebashan comme ça. En tout cas, pas quelqu'un à son niveau. Le soir de la mort de Sin et d'Andresch, à quelques tours de là, quelqu'un s'apprêtait à faire ses valises. Peter Rolletter, qui revenait ce soir-là, épuisé, mais heureux d'annoncer à sa compagne qu'il avait réussi. Algorin était terminé. Le clan Henschli allait lui verser les millions promis, leur passeport pour les étoiles. Après 37 mois, certes, d'une vie luxueuse, mais très intense pour lui, et d'un ennui à mourir pour elle. Il va lui falloir du temps pour se sevrer de la drogue qu'il avait pris l'habitude de consommer pour être plus efficace. Mais un contrat comme ça, ça ne se refusait pas. Le clan Henschli était prêt à l'héberger aussi longtemps qu'il fallait. Il l'avait repéré grâce à des échanges sur différents blogs. Il était doué, il avait surtout une intuition géniale. Ce qui lui manquait, c'était les moyens que le clan Henschli lui avait donné. Nom de code, Algorin. Un injecteur. Un transperce-couche. Dans l'informatique, on parle beaucoup de couches. Tout est une histoire de couches. Et Virzem, comme le reste. En haut, le jeu, lui-même constitué de plusieurs couches. Puis en dessous, les ressources du jeu. Toute la partie immersion 3D, le socle, Virzem. Lui-même constitué d'un certain nombre de couches. Tout ça, c'est du code, avec des bugs. Et donc la nécessité de pouvoir modifier, faire évoluer ou corriger. Et la problématique des couches adhérentes les unes aux autres, imbriquées, comme un vrai plat de nouilles. Algorin, c'est une révolution. La possibilité d'atteindre les couches basses, celles des calculs intensifs pour le rendu 3D, sans toucher les couches hautes, ce que l'on appelle les couches de projection que Virzem met à disposition des jeux pour créer l'impression, le rendu, avec les fameuses couleurs et les fameuses textures. Peter, dans son coin, avait déjà travaillé sur le sujet la moitié de sa vie, mais personne ne croyait que c'était possible, et il n'avait jamais eu les moyens pour le faire. Et puis là, en 37 mois, l'apothéose, la conclusion. Oh, ce n'était pas 37 mois, c'était 10 ans et 37 mois. Et des millions versés par le clan Henschli, la promesse d'un avenir meilleur. Ce soir-là, il s'était effondré sur son canapé, avait appelé sa compagne, ouvert son portable et appuyé sur la touche, pour voir les choses commencer à évoluer. Et en quelques secondes, tous les voyants étaient passés au vert. Sans un mot, avant même qu'elle ne comprenne, il s'était levé, avait ouvert la valise et avait commencé à ranger leurs affaires dedans. Le temps qu'il se retourne, l'ordinateur avait déjà sur l'écran des boutons qui avaient changé de couleur. On était en train de le purger. Il ne resterait rien. Henschli gardait le code. Lui partait au loin. On lui faisait confiance. Il n'avait de toute façon pas les moyens de refaire exactement la même chose. Quelques jours plus tard, alors qu'Akita venait de repérer une nouvelle cible pour essayer de boire une bière un soir, loin du quartier Henschli, Peter Rolletter et sa compagne prenaient l'avion depuis le continent pour partir loin, très loin. À quelques dizaines de kilomètres de là, de l'autre côté de Sianva par rapport à l'aéroport, Yanzi regardait la mer avec espoir. C'est à ce moment-là que le Maïdenar s'était dit qu'il valait mieux tirer tous les fils et mettre la main sur Don Heng. Mais trop tard, celui-ci avait disparu. Une jonque le déposerait, quelques jours plus tard, sur la plage, à côté de la maison de sa fille, folle de joie. Les quelques économies qu'il leur restait leur permirent d'aller s'installer sur une île pas très très loin, en Asie du Sud-Est, mais suffisamment loin d'Angebashan pour ne plus jamais avoir à se soucier de ce qui pourrait se passer là-bas et des gens qui pouvaient penser à eux. Ils ne se quitteront plus. Le père restera avec sa fille. Et c'est une chance, car c'est toujours plus facile quand on est deux, pour s'occuper de deux jumeaux particulièrement vifs et remuants. Une bénédiction pour cette famille, et surtout pour la mère, d'avoir le grand-père pour l'aider à pouponner, car évidemment, elle ne pouvait guère compter sur le père. Mais elle ne lui en voulait pas. Après tout, lui aussi faisait des efforts pour s'adapter à sa nouvelle vie et pour offrir aux siens les moyens dignes de vivre correctement. C'est qu'après toutes ces péripéties, il aurait rêvé de devenir simple pêcheur au bord de la plage, partant tous les matins, revenant tous les soirs et profitant des siens. Seulement, son sens de l'honneur et de la reconnaissance l'en avait empêché. Tout cela à cause de Sinarbouze, celui qui lui avait sauvé la vie, son seul ami, son frère. Ce soir-là, sur la passerelle, deux détails avaient donné aux événements une tournure que Matt Donleger n'avait guère imaginée, pas plus que les autres d'ailleurs. Le premier, qui aurait pu, néanmoins, lui être évident, Sin portait un gilet pare-balles, et, allez savoir pourquoi, un vrai, un gros. Non, en réalité, le vrai détail, j'allais dire, le vrai détail qui tue, mais non, justement. Matt Donleger s'était fait rouler dans la farine. Certes, on lui avait vendu l'arme de ses rêves, un McGorn, mais on lui avait pas donné de vraies munitions, tout au moins celles qui vont avec. Il avait une des armes de poing les plus puissantes au monde, mais avec des munitions standards qui ne fournissaient aucune puissance. À cette distance, avec ce qu'il imaginait, les trois balles auraient traversé le corps de Sin, le tuant sur le coup, et atteint le corps d'Andresch, le tuant sur le coup. Peut-être même aurait-elle traversé aussi le corps d'Andresch. Alors que là, non seulement les munitions n'étaient pas puissantes, mais le gilet pare-balles était solide. Les trois balles ont traversé, mais peu. Par contre, le choc, l'impact, fut tel qu'ils reculèrent et tombèrent tous les deux comme des pierres. Il faisait sombre, la foule avait hurlé, tout le monde était parti en courant, et Matt avait fait de même, n'allant pas vérifier ce qu'il se passait quelques mètres plus bas. Andresch n'en avait jamais parlé à personne, même pas à sa fiancée. Pendant 4 ans, dans les jardins, toutes les nuits, il sortait discrètement de sa cahute pour aller nager dans les canaux, étant persuadé qu'un jour, le seul moyen d'atteindre Angebashan serait de traverser à la nage. Il s'était donc entraîné. Se retrouver avec ce poids mort dans l'eau ne lui avait guère donc posé de problème. Sin, à moitié assommé, se laissa donc faire pendant qu'Andresch, rasant les murs, essayant d'être discret, s'éloignait de la zone en cherchant un endroit où l'on déposait les ordures. Au sec, parmi les immondices, il avait débarrassé Sin de son gilet pare-balles pour se rendre compte que les blessures n'étaient pas si graves. Là aussi, un vieux souvenir de ce qu'il avait pu apprendre à New Pondichéry. Pour la suite, ma foi, il lui suffisait de refaire ce qu'il avait fait une poignée de jours avant pour s'échapper de chez lui et discuter avec Don Heng. Attendre le passage des éboueurs, leur graisser la patte ou leur promettre que Don Heng le ferait, généralement, il connaissait son nom. Il pourrait ainsi le déposer chez lui, où il serait à l'abri, au moins quelque temps. Le problème, c'était les cracheurs de mort. En fait, pas possible d'attendre la levée des ordures. Ils avaient donc attendu 2 heures, que les choses se tassent, puis s'étaient remis à l'eau, et, bon an mal an, Sin, avec l'aide d'Andresch, avait nagé le long des immeubles, jusqu'à arriver à la fenêtre de Don Heng, qui heureusement habitait toujours au moins 3, qui les avait fait monter discrètement. Puis on avait utilisé le même stratagème pour les emmener à l'extérieur d'Angebashan. Les cadavres, récupérés la nuit, étaient emmenés vers la décharge de Sianva. Il avait suffi de glisser un peu d'argent dans une poche en plastique pour expliquer à celui qui pensait avoir pêché 2 cadavres qu'il avait intérêt à ne pas les mettre sous les déchets, mais dessus, pour la traverser. Puis, arrivé à Sianva, pareil, de nouveau graisser la patte pour pouvoir être traîné discrètement, comme des cadavres, à un endroit où ils pourraient monter dans un camion et quitter la décharge sans se faire repérer. Ils avaient ensuite rejoint l'endroit de leur futur petit paradis. Mais Sin, qui ne savait pas faire grand-chose de ses 10 doigts et se voyait mal travailler, avait vite trouvé un travail dans la pègre locale et avait embarqué Andresch, qui avait la tête de l'innocent parfait, pour trimballer les cigarettes de contrebande entre l'usine où on les fabriquait et la ville la plus proche où elles étaient vendues. Chacun avait sauvé la vie de l'autre, mais c'est d'abord Sin qui s'était sacrifié. Alors Andresch n'avait pas osé refuser, et passait donc sa journée loin de sa famille, priant ne pas avoir d'ennui. L'arrivée des 2 jumeaux avait été le jour le plus heureux de sa vie. Pour chasser plus vite la nuit, comme le voulait la coutume, on avait allumé un feu, car la naissance avait eu lieu un peu avant l'aube, dans une sorte d'hôpital de campagne tenu par une ONG locale. Les flammes avaient ainsi accueilli les premiers rayons du soleil, alors qu'à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de là, d'autres flammes voyaient les derniers rayons du soleil disparaître. Dans une caserne ultra secrète, on brûlait des livres.